France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
On parle des gènes.
Alerte, alerte, manipulation génétique. Ordre à tous les gènes de se rendre à l'ovule.
Non, c'est pas vraiment ça.
Ce modèle, il avait appelé ça le paysage épigénétique.
Le corps humain est un monde qui remue, qui palpite, c'est la vie.
On pourrait peut-être essayer d'aller voir comment s'est fait une cellule.
L'intégralité de notre organisme dispose de la même information génétique. Pourtant, il y a un paradoxe. Nos cellules de peau ne ressemblent pas à celles de notre cœur et encore moins à nos neurones. Comment, à partir du même ADN, peut-on avoir une diversité plus grande, aussi grande? La réponse, c'est l'épigénétique, un terme inventé par un certain Conrad Wedington en 1942 qui désigne littéralement tout ce qui est au-dessus de la génétique. Cette couche d'informations supplémentaires se pose sur l'ADN sans le modifier, comme de petits marque-pages qui donneraient des indications sur quand lire ou ne pas lire le génome. Cela résout le paradoxe du destin cellulaire et ouvre aussi un nouveau champ sur l'influence de nos modes de vie sur l'épigénome. Comment cette discipline est-elle née? Comment bouscule-t-elle notre compréhension de la génétique? Comment l'épigénétique a-t-elle changé le monde? Et pour explorer cette histoire, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Auger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de génétique moléculaire et biotechnologie à l'Université de Tours, chercheure dans le laboratoire iBrain et autrice de L'épigénétique et le coup de la girafe paru chez Human Science. Et en studio également, Francesca Merlin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe des sciences, directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Avant de jeter les bases de l'épigénétique et de revenir sur son histoire, voici un petit montage tout à fait contemporain.
Et peut-être vous avez regardé sur Google « épigénétique, vieillissement ». Ce que vous allez voir, c'est que des salons de beauté, des cures de beauté. Et il y a même une maison épigénétique à Paris, dans le 16e, qui, effectivement, est un salon de beauté. C'est pas vraiment ça.
Les mécanismes épigénétiques ne pourront pas se faire normalement parce qu'il manquera des choses. Il manquera des vitamines, il manquera les oligo-éléments. Les aliments raffinés sont des aliments qui sont pauvres, nutritivement parlant. Donc l'épigénome n'aura pas le fuel nécessaire pour fonctionner correctement.
D'où l'importance de mettre le bon carburant dans son corps régulièrement.
En dehors de la sphère de la psychiatrie, prenons le cancer très rapidement. Aujourd'hui, on parle d'épigénétique, de méthylome, de marqueur épigénétique du cancer. Ça permet de préciser le diagnostic et d'adapter les traitements. Des cancers qui répondaient plus à une chimiothérapie vont répondre si on ajoute des traitements spécifiques.
Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, et c'est un intérêt social.
On entend beaucoup de choses, en fait, dans ce petit montage contemporain. Cure épigénétique, le lien entre épigénome et alimentation, épigénétique et cancer. On parle aussi de médecine préventive. Corinne Auger, j'ai le sentiment qu'une fois qu'on a entendu finalement ce mot épigénétique, maintenant on l'entend un petit peu partout.
Oui, c'est tout à fait vrai. On l'entend partout, et on l'entend partout parce que c'est une science qui nous permet d'expliquer beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à expliquer jusqu'à présent. Et du coup, par extension, on s'en sert pour expliquer tout un tas de choses, voire n'importe quoi. Des fois, il faut bien le dire. Et donc, oui, c'est un petit peu mis à toutes les sauces. Donc, l'épigénétique, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous permet de comprendre des mécanismes auxquels on n'avait pas accès. Mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de tout. Donc, c'est quand même important de rester vigilant à ce niveau-là et de ne pas faire avec l'épigénétique ce qu'on a fait fin du XXe siècle avec la génétique, à savoir que ça allait répondre à toutes nos questions. C'est une science extraordinaire, mais qu'il faut encore faire avancer et progresser pour qu'elle puisse nous apporter tous ces secrets.
Et est-ce qu'il y a parfois une forme justement d'incompréhension sur ce que ça recouvre, Francesca Merlin? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une forme parfois d'emballement médiatique? Parlons-en directement et après on reviendra sur l'histoire.
Il y a sûrement eu et il y a encore actuellement un emballement médiatique. Disons que l'épigénétique a donné l'espoir de pouvoir reprendre en main son propre destin, alors que juste avec la génétique, les gènes, voilà, on était né avec un certain patrimoine génétique, on ne pouvait rien y faire. Cependant, je suis pas complètement d'accord avec Corinne Auger en disant que voilà, on savait déjà avant de faire de l'épigénétique comment la nutrition, nos styles de vie pouvaient avoir un impact sur notre santé. Maintenant, on connaît des mécanismes, voilà, moléculaires, mais on y prête beaucoup trop de, comme si c'était quelque chose de vraiment déterministe, comme si on savait quelle chose manger, quel style de vie avoir pour produire un certain effet précis sur notre santé, ce qui n'est pas le cas.
Ce qui est faux, oui, tout à fait.
On va pouvoir revenir justement, Corinne Auger, sur la définition de l'épigénétique. Déjà, est-ce qu'il y a une définition ou des définitions ?
Alors, il y a une définition couramment admise par les chercheurs qui font de l'épigénétique au niveau mécanistique. L'épigénétique, ça désigne tout ce qui fait varier l'activité des gènes sans toucher au message, sans toucher à la séquence. Donc c'est ce qui va déterminer qu'une cellule fabrique en plus ou moins grande quantité un certain ARN messager qui va ensuite permettre de produire une protéine. Là où on est peut-être un tout petit peu moins d'accord les uns avec les autres, c'est qu'est-ce qu'il faut ranger sous cette casquette-là quand on arrive au niveau des mécanismes moléculaires. Il y a des mécanismes moléculaires qu'on va pouvoir ranger facilement dans cette case-là et d'autres pour lesquels la discussion est ouverte.
En préparant cette émission, j'ai pu lire parfois que l'épigénétique était définie parce que la génétique ou l'ADN n'est pas. J'ai lu tout ce qui ne touche pas directement à votre ADN, tout ce qui n'est pas inscrit dans votre génome. On a aussi parfois peut-être tendance, Roger Merlin, de le définir par la négative. Ça implique peut-être une difficulté en fait dans sa définition.
Effectivement, parce que la définition que ma collègue a donnée est effectivement celle qui est la plus utilisée lorsqu'on fait des études mécanistiques. Mais on a montré aussi à d'autres historiens, philosophes des sciences, comme Michel Morange, par exemple, que l'épigénétique a toujours été définie de manière négative, en opposition à la génétique. Et si on regarde bien, on étudie bien les définitions, souvent c'est écrit tout changement de l'activité des gènes qui ne peut pas être expliqué par un changement de la séquence d'ADN ou qui n'est pas dû à un changement de la séquence ADN. On a l'impression qu'on définit l'épigénétique par rapport à ce qu'on ne peut pas expliquer par la génétique, ou alors d'une manière, je pourrais dire, opérationnelle. Parce que quand on veut savoir si un certain changement des caractéristiques d'un organisme est dû à de l'épigénétique, un changement épigénétique, on va essayer de garder tout ce qui est génétique fixe, stable. Et donc voilà, en quelque sorte, on s'inspire de la méthodologie pour donner une définition, alors que, et Corinne Auger pourra confirmer cela, il y a un lien très étroit entre tout ce qui est génétique au sens de séquence d'ADN et épigénétique, toutes les marques voilà, qui peuvent être apposées sur cette séquence.
On va parler justement de l'histoire et on va voir justement que l'histoire de l'épigénétique en fait touche l'histoire de la génétique. C'est une discipline finalement qui est très récente avec un concept qui est assez ancien. Dans cette émission, on va plutôt s'intéresser au 20e et 21e siècle, mais j'aimerais tout de même faire un tour par les prémices de l'épigénétique. On peut remonter tout de même jusqu'à l'Antiquité avec Aristote, Corinne Auger.
Tout à fait, c'est Aristote qui observe qui décrit que la construction d'un embryon de poulet à l'intérieur de l'œuf, une fois que l'œuf a été fécondé, se fait non pas par grossissement d'une structure préformée, mais par l'évolution et la complexification d'une structure qui se transforme petit à petit pour passer d'une structure simple à une structure très complexe, finalement le futur poussin. Et donc cette description-là, elle est, on la doit à Aristote et elle a été confirmée quelques siècles plus tard par des savants qui décrivait une théorie donc du transformisme et qui s'opposait à la théorie de la préformation dans laquelle on estimait que théorie de la préformation à l'intérieur d'un spermatozoïde ou d'un ovule, ça dépend de quel côté on regarde la théorie, il y a un individu miniature qui placé dans de bonnes conditions ne fait que grandir, alors que le transformisme lui explique cette acquisition de complexité au fur et à mesure du développement. Et le terme qui va avec, c'est le terme d'épigénèse, qui a été prononcé par Harvey en 1651.
Mmh. Harvey aussi qui est voilà. Découvreur de la circulation sanguine.
Pour décrire ce processus de complexité qui s'accumule.
Ce qu'on comprend aussi en filigrane sur cette question de l'histoire de l'épigénétique, c'est qu'il y a une histoire qui mêle beaucoup celle de l'embryologie finalement, Francesca Merlin.
Oui, tout à fait.
On parle d'ailleurs, d'embryon poule.
Je ne sais pas si c'est le moment de faire un saut vers le XXe siècle, mais effectivement, Conrad Waddington, donc biologiste du développement, qui a introduit le premier terme épigénétique en 1942, voulait, en faisant de l'épigénétique, en proposant d'en faire, construire un pont entre l'embryologie expérimentale, donc qui étudiait à l'époque les mécanismes du développement en faisant des expériences, en intervenant, par exemple en coupant un embryon en deux, pour voir qu'est-ce qui allait se développer à partir de ces deux moitiés. Et de l'autre côté, la génétique, donc l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Les deux, qui donc allaient voir la génétique et étudiaient donc comment les changements des gènes allaient avoir un impact sur le changement de l'organisme en développement. Donc c'est vraiment un pont entre les deux que Waddington veut créer par l'épigénétique. Et il s'inspire, et il le dit explicitement, de l'épigénèse. Mais il fait référence, parce qu'au début de l'émission, vous avez dit, et c'est qui se dit souvent, qu'épigénétique, ça vient du préfixe épi au-dessus et génétique, les gènes. Mais en fait, Waddington ne l'entend pas en ce sens-là. Il dit explicitement qu'il fait référence au fait que pour lui, le développement, c'est une construction progressive d'un organisme qui s'y fait via l'interaction des gènes, de leurs produits avec l'environnement. Et c'est versus une conception plutôt préformationniste du développement.
Quand on est avec Conrad Waddington, juste un petit mot, parce que là on se trouve en 1942, j'aimerais faire un tout petit retour en arrière sur la question de la préformation et en fait cette théorie de la complexification en fait de l'organisme qui est entier. Au fil des siècles, en fait, avant que Conrad Waddington pose ce terme, à quel point ces théories sont en vogue en fait finalement? On sait par exemple qu'il y a eu le procès de Galilée en 1633. On sait que l'Église aussi a un poids assez fort en fait finalement dans tout ça. Si on pense qu'avec Aristote avait déjà cette idée de complexification et pas du tout d'un petit individu dans l'embryon qui est en fait déjà formé, c'est comment comprendre en fait finalement l'émergence de la théorie de la préformation et le fait qu'elle ait été finie par redevenir en vogue avant cette histoire du XXe siècle.
En fait, bon. Francesca le dirait sans doute mieux que moi en termes d'histoire. La théorie de la préformation, elle est liée à l'Église parce qu'elle est liée à la Genèse, elle est liée au créationnisme. Et pour l'Église, les êtres vivants sont tels qu'ils sont aujourd'hui, enfin à l'époque tels qu'ils étaient au premier jour, et il n'y a pas de possibilité d'évolution, de complexification, y compris au cours du développement embryonnaire. Et donc c'est vraiment lié à la doctrine de l'Église qui fait que cette théorie de la préformation, elle a vraiment le soutien de l'Église. Donc qui dit le soutien de l'Église dit le soutien des puissants, et que les théories qui vont contrer celle-là ont de la difficulté à émerger et à montrer qu'elles ont raison. Et il va falloir qu'elles apportent des preuves scientifiques. Donc il va falloir découvrir que les organismes sont des êtres multicellulaires, donc pour ça il faut des moyens d'observation, en particulier le microscope, et finalement il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle, le milieu, la fin du XVIIIe siècle, pour que cette théorie-là elle soit complètement réfutée et que le transformisme ait gain de cause, quoi.
Un petit mot peut-être, Francesca Merlin, sur cette théorie de la préformation et le fait qu'elle ait pu être en vogue, enfin, ou ne pas être en vogue, et puis revenir un petit peu sur le devant de la scène à ce moment-là, malgré finalement toute la science qu'il y avait déjà depuis Aristote.
Oui, mais ce qui est surprenant, c'est aussi que au XVIIe, donc au XVIIIe siècle, quand la théorie préformationniste est revenue en vogue, parce qu'elle était là, voilà, ces idées-là étaient là, elle a toujours été là, des microscopistes comme Marcello Malpighi ou encore Jan Swammerdam, en fait, ils croyaient voir, ils regardaient avec le microscope des embryons et ils croyaient voir effectivement des petits individus. Donc c'est aussi intéressant de voir comment il y a un biais en fait. Voilà, on pense voir, on veut voir quelque chose là.
Il y a eu des descriptions très très, très précises justement où on voit des dessins avec des petits bonhommes.
L'homonculus.
Exactement, de très petits et de plus en plus gros. Donc on voit qu'il y avait finalement, ce que vous dites, une volonté de voir quelque chose en fait qui n'avait jamais été vu et qui avait que les moyens techniques finalement de plus en plus évolués ne se voyaient pas.
Oui, donc je pense qu'ensuite on a commencé à ne plus voir ces petits individus, pas seulement parce que les microscopes sont devenus plus performants, mais aussi parce qu'il y a eu un changement au niveau des idées, et aussi des difficultés, une difficulté marrante du préformationnisme côté oviste, donc ceux qui pensaient que la petite personne était déjà dans les ovocytes, c'était que ça voulait dire, et c'est lié au créationnisme en fait, que toute l'humanité était déjà présente à l'intérieur d'Ève. Donc ça a fait réfléchir même les préformationnistes en disant voilà, c'est quelque chose qui est quand même, en faisant des calculs, c'est quand même peu probable.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
On va revenir justement sur la naissance réelle de l'épigénétique avec Conrad Waddington. Ce que vous commenciez un petit peu à dire, Francesca Merlin, sur cette question, mais je vais vous interroger, Corinne Auger, c'est que il y a un lien très fort entre génétique et embryologie à ce niveau-là, parce que lui-même a fait plusieurs écoles. C'est-à-dire qu'il est à la fois généticien et embryologiste. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, mais il est les deux. Il est aussi paléontologue, par ailleurs.
Oui, oui, c'est quelqu'un qui avait de multiples cordes à son arc. Et il a réalisé des expériences dans lesquelles, en fait, il associe toutes ses connaissances, toutes ses compétences pour essayer de montrer, parce que, en fait, c'était son angle à Waddington, que l'environnement avait une influence sur le développement, en particulier le développement embryonnaire. Donc, il a conçu des expériences pour faire ça, avec l'idée que, du coup, l'environnement allait avoir un effet sur le patrimoine génétique de l'embryon et qu'à partir d'un génotype particulier, on allait pouvoir modifier ce qu'on appelle les phénotypes, donc l'apparence des embryons, ce que l'on voit. Et donc, il a effectivement réalisé des expériences pour prouver ça. Et il l'a prouvé. Mais alors, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que ce qu'il a induit par ses expériences, c'est pas des modifications de l'épigénome, c'est des mutations génétiques, en fait. Et donc, quelque part, il a montré l'importance de l'environnement, mais lui, il est passé à côté de l'épigénome, forcément, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas du tout en avoir la moindre idée. Et ce qu'il a créé, c'est des mutations génétiques.
Donc finalement, il donne, à travers la définition de l'épigénétique, il ne donne pas du tout la bonne définition de l'épigénétique, Francesca Merlin.
Il en donne l'esprit, parce qu'il veut vraiment voir ce qu'il y a entre le génotype, l'ensemble des gènes, et le phénotype, l'ensemble des caractéristiques apparentes. Et même s'il connaît pas les mécanismes pour des raisons évidentes, c'est ce côté processuel, c'est cette idée que voilà, c'est Waddington, c'est un pas vers, même si c'est un peu tôt par rapport à comment ça s'est passé effectivement, vers une conception de l'ensemble des gènes du génome comme quelque chose de pas statique mais dynamique. Comme Barbara McClintock, donc généticienne américaine, parlait du génome comme un organe, en fait. Mm-hmm. Et c'est vraiment ce côté processuel dynamique que Waddington introduit un peu plus tôt que
les autres.
Que les autres.
Et justement, il utilise aussi une métaphore, celle du paysage épigénétique. Donc, c'est un paysage avec un ensemble de vallées ou de montagnes. On comprend que c'est l'expression, finalement, de certains gènes. Lui, il n'y est pas encore sur cette question-là, mais on peut imaginer les cellules qui parcourent ce paysage un peu comme une rivière, et puis certaines prennent un chemin et d'autres un autre. Est-ce que c'est un peu ça le fondement, finalement, de son paysage épigénétique, Corinne Auger ?
En fait, c'est exactement ça. Et ce qu'il décrit avec ce paysage-là, c'est donc la cellule qui est tout en haut, avant de commencer à dévaler les différentes vallées, elle va se diviser. C'est la première cellule qui existe au moment de la fécondation, donc c'est la cellule œuf, qui va se diviser pour donner 2, 3, 2, 4, 8, 16, etc. Et que ces différentes cellules, elles vont s'engager dans différentes vallées. Et que cet engagement dans différentes vallées va déterminer leur destin, va faire qu'une cellule souche, une cellule œuf, se transforme petit à petit, ben, comme vous le disiez au démarrage, en neurones, en cellules cardiaques ou en cellules de peau. Et là où cette image est très puissante, c'est que elle sous-tend bien l'idée qu'une fois que le processus est engagé, il est irréversible. La cellule, elle dévale et elle ne remonte pas, en fait. On parlera peut-être du cancer tout à l'heure, mais dans un développement embryonnaire normal, les cellules dévalent et ne remontent pas. Et donc, cette image, elle est vraiment très bonne et très, très puissante pour illustrer le destin de chaque cellule au cours du développement embryonnaire.
Et justement, sur cette idée de paysage épigénétique, Francesca Merlin, vous parliez justement d'un côté dynamique. Là, il y a à la fois un petit côté dynamique et déterminé en même temps.
Oui, bien sûr, il faut,
faut
ce
tout.
Système de vallée, en fait, est formé, se forme, j'aime pas trop dire déterminé, mais est formé en dessous, en fait, il y a un système qui est dessiné aussi, qui est formé par il y a des gènes, les interactions entre eux et avec l'environnement, et ce sont ces interactions, donc là, on a le processuel, le dynamisme, qui va, en quelque sorte, donner une forme à ce paysage épigénétique. Mais je trouve que c'est vraiment une métaphore effectivement puissante parce que ça montre comment l'épigénétique Et l'épigénotype, c'est que Waddington appelait, cet ensemble de processus qui se font, qui ont lieu au cours du développement et qui permettent la construction de l'organisme. Comment ça va permettre la différenciation cellulaire et le développement des organismes. Donc l'épigénétique chez Waddington, et puis de manière plus générale, c'est une réponse à ce problème de développement que vous avez cité au début. Comment il se fait qu'à partir d'une cellule unique et puis de plusieurs cellules chez les organismes cellulaires qui ont le même génome, la même séquence d'ADN, on a des cellules très différentes, des tissus différents et puis un organisme différencié.
Aujourd'hui, peux rajouter quelque chose qui intéressait aussi beaucoup Waddington, c'est quels sont les mécanismes qui font qu'une cellule pourrait sauter d'une vallée à l'autre. Et quelque part, quand il a fait ses expériences de mutagénèse, c'est ça qu'il essayait de faire, en fait. C'était de faire sauter une cellule, de changer son phénotype et de dire qu'une cellule, une fois qu'elle est engagée, peut-être qu'il y a des conditions qui lui permettent de changer d'aspect. Et ça l'intéressait aussi beaucoup.
Et ce qu'il faut dire, si on n'a peut-être pas le temps de le dire à la fin de l'émission, c'est que maintenant, on sait faire l'inverse. C'est un processus important de dire que maintenant on est capable justement de partir de la base de la montagne et en fait finalement de
remonter. Oui.
C'est intéressant. Et puis finalement là on est dans un moment assez important de l'histoire de la découverte de l'épigénétique. Mais si on le replace dans le contexte de l'époque, quelle importance en fait finalement ça a eu, Corinne Auger? Est-ce que c'est reçu? Comment est-ce que c'est reçu?
Alors, à l'époque, il faut se remémorer un petit peu ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. En 1942, on ne connaissait pas la structure de l'ADN. On avait une idée assez vague de la façon dont les caractères se transmettent, puisqu'il va falloir attendre 44. Et même le début des années 50, pour que des chercheurs démontrent que l'ADN est le support de l'hérédité et aussi le support de l'information génétique. 53 pour la structure de l'ADN. Donc, dans le début du XXe siècle, on sait que dans le noyau, il y a un matériau qui permet de faire tout ça, mais on ne sait pas comment ça marche. Et à côté de ce matériau, donc de ce support physique qui avait été découvert et qu'on appelait la nucléine, et puis après on a démontré que c'était de l'ADN, il y avait aussi toute la théorie génétique, donc qui avait été portée par Mendel, qui montrait la transmission des caractères, mais il y avait besoin de faire la jonction entre toutes ces théories-là. Et quelque part, Waddington, en 42, il est à l'orée de toutes ces jonctions-là qui vont être faites dans les 10 années qui suivent.
Et pour comprendre finalement un petit peu et revenir à notre problème initial sur le fait qu'une cellule de peau, c'est une cellule de peau, une cellule de cœur, une cellule de cœur, il y a tout ce mécanisme de différenciation cellulaire, mais on comprend que là, on commence à toucher finalement à la question d'expression des gènes. À partir de quand on comprend déjà la nature des gènes ou l'existence des gènes et quand est-ce qu'on commence à toucher à ce qu'est l'expression des gènes, Francesca Merlin?
Les gènes, on parle de gènes, le terme gène a été introduit depuis le début du XXe siècle par Johansen. Mais pour lui, c'était juste une sorte d'hypothèse, en fait, une fiction, une entité théorique qui permettait d'expliquer, en fait, les changements observables, les variations chez les organismes. Puis, on a toute l'école de Thomas Morian qui a commencé de plus en plus, on est allé vers une conception plus matérielle, plus comme une structure matérielle du gène, avec l'école du généticien Thomas Morian et toutes les recherches qu'il a faites sur notamment en utilisant la drosophile, donc la mouche. Et puis, au fur et à mesure, en suivant les étapes que Corinne a mentionnées, jusqu'à, en 1953, la caractérisation de la structure physico-chimique de l'ADN. Mmh.
Donc, vous avez mentionné McClintock aussi, McClintock.
Barbara McClintock aussi, c'est quelqu'un qui, prix Nobel de physiologie ou médecine.
En 83.
Voilà, en 83. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à toute cette histoire, et notamment, même si ça a été reconnu plus tard, à essayer de répondre à cette question, à ce problème du développement de la différenciation cellulaire et de l'expression des gènes. Et elle avait une hypothèse, l'hypothèse des gènes sauteurs, on peut dire, on peut l'appeler comme ça. Même si on connaissait pas encore à l'époque l'ADN, elle avait fait l'hypothèse qu'il y avait des éléments, comme des transposons, on dirait, qui bougent dans le génome. Et donc c'est cela qui permet la régulation de l'activité, donc de l'expression des gènes.
Et ce qui est intéressant peut-être à noter, c'est qu'il a fallu avoir recours, là, si on se place un petit peu dans ces années-là, à beaucoup de modèles, finalement. De modèles, on a parlé de mouches, il y a des modèles aussi peut-être bactériens, pour comprendre, en fait, finalement, l'expression des gènes.
Alors, oui, l'expression des gènes, elle a été le grand moment pour moi de l'expression des gènes, c'est la découverte de l'ARN messager par Monod et Jacob et Wolf dans les années 70 à l'Institut Pasteur de Paris, qui donne un intermédiaire entre l'ADN, donc le message qui est dans l'ADN, et la protéine. Et cet intermédiaire, il manquait à la compréhension et les études qu'ils font montrent que cet intermédiaire, il est produit en quantité variable en fonction de l'environnement. Ils travaillaient sur ce qu'on appelle l'opéron lactose, donc c'est un système génétique qui permet de consommer le lactose comme sucre pour la bactérie et qui dépend de l'environnement dans lequel vit la bactérie. Et donc, en fonction de cet environnement, elle va fabriquer plus ou moins de cet ARN messager.
Donc là, il y a un lien fort déjà avec l'environnement.
Voilà, il y a un lien fort avec l'environnement et il y a vraiment, on touche là vraiment au cœur de l'expression des gènes, où on va commencer à découvrir qu'est-ce qui, dans l'ADN, contrôle l'expression des gènes. Pour moi, c'est vraiment le grand moment de cette découverte de l'expression des gènes, même si il y avait des hypothèses avant, bien évidemment, mais là, on met vraiment la main sur quelque chose un mécanisme clé qui va permettre d'expliquer beaucoup de choses.
Et un autre élément important, c'est que finalement, il a fallu attendre de découvrir qu'une cellule garde toute sa vie la même information génétique. On l'a dit dès le début, ça nous paraît être une évidence en fait qu'il y a le même ADN dans toutes nos cellules, mais il a fallu encore le prouver, et ça n'arrive finalement que dans les années 50-60, Francesca Merlin.
Oui, je pense. Je me souviens plus précisément comment cela a été montré.
En fait, c'est une hypothèse qui existe depuis que les théories de l'embryogenèse montrent que les cellules se divisent et que ce qu'il y a dans le noyau des cellules mères est transmis aux cellules filles. Donc cette idée, elle est sous-jacente. La démonstration que les cellules ont le même patrimoine génétique, je saurais pas la dater.
Moi, j'ai Briggs et Kings, si ça peut vous aider.
Parce Riggs, c'est le milieu du XXe siècle, Riggs.
Oui, c'est ça. On est dans les années 52, 62, justement. Et puis, il y a ce lien, finalement, aussi avec les cellules iPS, en fait. Et la découverte, justement, de cette reprogrammation. Eux, d'après ce que j'ai compris, justement, ils pouvaient prouver qu'il y avait cet ADN qui était présent dans toutes les cellules. Mais peu importe si on a la...
Oui, vous faites référence au fait qu'on a pris le noyau d'une cellule différenciée, on l'a mise dans une cellule, dans le zygote, en fait.
Exactement, dans l'œuf.
Voilà, ouais. Dans l'œuf. Et on a pu montrer que ça allait donner un organisme.
Et ça, c'était quand même un élément important. Enfin, c'est une base dont on a besoin, en fait, pour comprendre finalement le reste, parce que c'était peut-être pas si évident avant cela.
Oui. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a, pour montrer qu'il y a le même patrimoine génétique dans toutes les cellules et qu'à partir de ce patrimoine génétique-là, on peut reconstituer un individu entier, un embryon entier, il y a eu deux approches. La première approche, ça a été le clonage, et je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est le clonage. Mm-hmm. Donc, être capable de prendre un noyau de cellules différenciées, l'injecter dans un ovocyte qui lui-même a été énucléé, et être capable, à partir de cette fusion-là, de reconstituer un embryon qui va donner un individu dont le patrimoine génétique est celui du donneur de noyau. C'est le cas de la brebis Dolly, qui a été conçue dans la fin des années 90. Et donc là, on démontre effectivement, de façon un petit peu indirecte, mais on le démontre, que avec un patrimoine génétique de cellules de glande mammaire, c'est une cellule de glande mammaire, on arrive à reconstituer un individu. Donc forcément, ce patrimoine génétique, il est le même dans toutes les cellules. Et l'autre chose dont vous parliez, quand tout à l'heure vous parliez de cellule iPS, c'est pas la même chose en fait. La cellule iPS, c'est une cellule adulte que l'on va traiter pour qu'elle se dédifférencie et qu'elle puisse aussi, elle, reconstituer un embryon complet. Mais c'est pas les mêmes, on passe pas par les mêmes chemins, on passe pas par les mêmes chemins pour reconstituer des individus complets.
On va ensuite parler des mécanismes en fait derrière tout cela. Quelle est la couche d'informations supplémentaires qui surplombe la génétique et comment l'épigénétique s'est-elle imposée partout ? C'est la suite de notre programme juste après ça.
Merci mon corps, tu en as fait.
De Lisa Pratt-Chéral sur France Culture. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde. Aujourd'hui, nous intéressons à l'histoire de l'épigénétique en compagnie de Corinne Auger, professeure de génétique moléculaire et biotechnologie à l'Université de Tours, chercheure au laboratoire iBrain et autrice de L'épigénétique et le cou de la girafe, paru chez Humaine Science. Avec nous également Francesca Merlin, philosophe des sciences, directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Nous avons commencé à aborder le début de la découverte de l'épigénétique. On a passé maintenant, finalement, les années 70, avec le fait que les cellules gardent en elles l'intégralité de ce matériel génétique, et on va rentrer finalement un peu dans le mécanisme de l'expression de ces gènes. Et il y a des travaux qui sont tout de même importants à mentionner, il faut prendre le temps de les expliquer, c'est finalement les travaux sur les chromosomes X, et plus précisément l'inactivation du X. Donc ça, je vous laisse l'expliquer. Corinne Auger.
En fait, là, on rentre dans la question des marques épigénétiques et qu'est-ce qui fait qu'un gène s'active ou qu'un gène ne s'active pas. Donc, c'est vrai que un des premiers chromosomes à avoir été étudié, parce qu'il est entièrement inactivé dès le stade 4 cellules du développement embryonnaire, c'est le chromosome X. Dans toutes les espèces qui ont un déterminisme sexuel basé sur chromosome XX, par exemple, chez la femelle, XY chez le mâle. Le fait qu'il y ait deux chromosomes X, c'est délétère pour la cellule, c'est létal. Et si les deux chromosomes X restaient actifs, tous les deux, la cellule pourrait pas survivre et l'individu mourrait. L'embryon ne réussirait pas à naître. Et donc, très rapidement, au cours du développement embryonnaire, un des deux chromosomes, de façon aléatoire, est inactivé. De quelle façon ? En fait, il est compacté très fortement et forme une petite boule à la périphérie de la cellule qu'on appelle le corpuscule de Barr. Donc Barr, c'est le chercheur qui l'a découvert. Et on s'est rendu compte que cette compaction très forte, elle était due donc à des mécanismes génétiques dans un premier temps, et elle était stabilisée par une méthylation très intense de tout le chromosome X inactivé. Donc là, on a une première observation du rôle de la méthylation de l'ADN pour le maintien inactif de l'intégralité d'un chromosome.
Les méthylations sont importantes. C'est une des deux marques finalement qu'on a. Je parlais des petits marque-pages en fait finalement dans l'introduction. Ça, c'est assez essentiel. Mais est-ce qu'on lit en fait, on regarde forcément l'histoire de manière un peu anachronique parce que maintenant on a la réponse. Mais est-ce qu'on lit directement au départ ces travaux de l'inactivation du X avec la question épigénétique, Francesca Merlin?
Non, pas tout de suite. C'est Mary Lyons. Dans les années 60, voilà, qui avait fait cette observation, et c'était en observant en fait la chromatine, c'est cet ensemble de ADN et des protéines autour desquelles l'ADN est enroulé chez les organismes eucaryotes comme nous avec un noyau. Et donc en fait c'était voilà l'activation ou l'inactivation du chromosome X était associée à au fait comme Corinne l'a dit du fait de la chromatine qui est plus ou moins compacté. Mais il n'y avait pas encore d'observation au sujet de méthylation de l'ADN notamment. Ça, c'est bien plutôt dans les années 70-75, deux chercheurs indépendamment, donc Arthur Riggs et Robin Halliday, ils ont fait les premières observations et plus tard, quelques années plus tard aussi, ils ont publié un article ensemble dans lequel ils émettent l'hypothèse que la méthylation de l'ADN, donc ces groupes chimiques attachés à l'ADN à certains endroits en particulier, a un impact sur sur l'expression des gènes. Et une chose très importante, c'est aussi qu'ils mettent en évidence que ces marques épigénétiques, ces méthylations, sont stables à travers les divisions cellulaires, en particulier les divisions mitotiques pour l'instant, c'est-à-dire les divisions des cellules de notre corps, les divisions des cellules somatiques. Leur mémoire, leur stabilité à travers la méiose, c'est-à-dire les divisions qui donnent lieu aux gamètes, c'est quelque chose qui a été mis en évidence chez certaines espèces, il faut être précautionneux un peu plus tard.
Cette question justement de la réversibilité de ces modifications chimiques, au départ, on se dit justement voilà qu'elles sont statiques, Corinne Auger.
Alors, la méthylation d'ADN, elle est découverte tout d'abord chez les bactéries, et ça joue un rôle dans les mécanismes de défense des bactéries vis-à-vis des infections par les phages. Et dans ce cas-là, elles sont stables, et pour poser l'hypothèse qu'elles sont réversibles, ça veut dire qu'il faut imaginer un système enzymatique qui permet de les inscrire et de les effacer. Et donc ces systèmes enzymatiques, ils vont être découverts dans les années 80. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir formuler l'hypothèse qu'effectivement ces marques, dans certaines conditions, elles peuvent être enlevées et dans d'autres conditions, elles peuvent être rajoutées, indépendamment de ce qui se passe au cours du développement embryonnaire. Mais il a fallu découvrir le système des enzymes qui les déposent et celles qui les effacent pour pouvoir imaginer ces hypothèses-là. Donc elles sont effectivement, aujourd'hui on considère que les marques épigénétiques sont en partie réversibles, c'est pas le mot que je cherchais.
Dynamique.
Elles sont dynamiques, voilà. Plutôt dynamique que réversible.
Et à partir du moment où on comprend finalement ce caractère un peu dynamique des marques, donc on a parlé de la méthylation, mais il y a son pendant aussi qui est l'acétylation. À partir du moment où on comprend cette dynamique, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se dit que l'environnement, pas seulement au sens cellulaire en fait finalement, peut avoir un impact sur cet épigénome, Francesca Merlin?
Disons que d'un point de vue, mais Corinne pourra me corriger, d'un point de vue physico-chimique, les liens sont moins forts que les liens au niveau de la séquence d'ADN, et donc il y a majeure facilité de la part de facteurs environnementaux de pouvoir modifier ces marques.
Ouais, mais ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que pour l'instant, on sait dans certains cas de figure établir des liens de causalité entre une expérience que l'on va mener, une modification de l'environnement, et je parle surtout de culture, de cellules en culture qui vont amener des modifications donc de ces marques épigénétiques qu'on appelle l'épigénome, donc dans un contexte très particulier, mais que si on sort de ce cadre très strict du laboratoire et qu'on essaye de regarder les choses dans la nature, c'est beaucoup plus difficile parce que on peut pas imaginer que l'environnement a le même effet sur les 100 000 milliards de cellules qui constituent un individu. Et cet environnement, il va avoir un impact sur certains épigénomes plus que sur d'autres. Et ça donne un niveau de complexité pour l'étude qui est extrêmement fort. Et on arrive à faire le tri sur des modèles en laboratoire, mais dès qu'on s'éloigne de ces modèles très cadrés, c'est là qu'on commence à pouvoir éventuellement formuler des hypothèses un peu plus folkloriques. Quoi.
Peut-être une autre chose que je voulais ajouter sur l'environnement, parce qu'on lit beaucoup l'épigénétique à l'environnement. Or, il est important de rappeler que toutes ces marques épigénétiques peuvent aussi se modifier de manière spontanée. Il n'y a pas forcément l'environnement qui entre en jeu. Il ne faut pas non plus penser ces marques comme des changements qui ont lieu qu'en réponse à
quelque chose,
un signal environnemental.
Oui. Tout à fait, tout à fait. Et le moment le plus, enfin pour moi le moment crucial, c'est au cours du développement embryonnaire, justement quand les destins cellulaires sont définis par la position de ces marques épigénétiques pour les engager dans les fameuses vallées de Waddington. Et c'est aussi à ce moment-là que c'est le plus fragile, le profil d'établissement de l'épigénome. Et qu'après, elles surviennent par hasard, de la même façon que les mutations peuvent survenir par hasard dans les gènes, les épimutations peuvent survenir par hasard dans nos cellules.
Il y a une question justement qu'on entend aussi beaucoup. Si on revient au moment de la fécondation, gamètes mâles et gamètes femelles portent des marques épigénétique. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une remise à zéro?
Alors, ça dépend de l'espèce dans laquelle on se place.
Un peu encore de complexité.
On va parler des mammifères et de l'espèce humaine en particulier, parce que je pense que c'est ça qui intéresse les gens. au moment de la fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde, ils ont tous les deux des épigénomes très particuliers qui les rendent très compacts. Et compacts au point que leurs génomes sont quasi silencieux.
C'est illisible, il faut peut-être le rappeler. Cette compaction, ça veut dire qu'on ouvre entre guillemets un peu l'ADN et qu'on permet en fait une lecture et donc du coup une forme d'expression.
Alors la compaction empêche la lecture et quand on décompacte, on ouvre et on permet la lecture. Et donc après la fécondation, il y a deux vagues successives de suppression complète des marques épigénétiques, en particulier des méthylations. Donc il y a deux vagues successives de déméthylation totale du génome embryonnaire qui prennent place pendant les tout premiers stades des divisions cellulaires pour constituer le futur embryon. Et le génome embryonnaire à ce moment-là est complètement silencieux. Le futur embryon fonctionne grâce à ce que l'ovule avait dans son cytoplasme. Il utilise des réserves en quelque sorte qui ont été déposées là par la mère. Et au fur et à mesure que le génome embryonnaire s'éveille, vont être apposées des marques épigénétiques qui permettent l'expression de certains gènes et pas d'autres. Mais en réalité, pour l'instant, ces tout premiers moments, on n'a pas une image claire de comment ça s'enclenche.
En revanche, on entend quand même tout de même assez parler de cette question de la transmission de l'épigénétique, Francesca Merlin.
Oui, et d'ailleurs, il faut la prendre avec des pincettes, parce qu'on met tout ensemble, toutes les espèces ensemble, alors que, comme Corinne vient de le dire, chez les mammifères, voilà, la transmission de marques épigénétiques, c'est très très rare. Il y en a certaines qui peuvent échapper, mais c'est très très rare. On connaît ça depuis longtemps chez les plantes, notamment, j'imagine, parce qu'il n'y a pas cette division entre la lignée germinale dédiée à la reproduction et la lignée somatique du corps. Et donc, tout ce qu'on vient de dire montre comment il faut être prudent quand on parle de transmission transgénérationnelle via des mécanismes épigénétiques de notamment chez les humains, notamment
les traumatismes.
Traumatisme. Il y a beaucoup d'études.
Les famines, en fait, quelqu'un qui aurait pu, voilà, justement subir une famine chez ses aïeux aurait pu justement conserver ces marques-là. Je parle au conditionnel parce que justement il y a pas cette preuve-là.
Évidemment, il y a ces études-là. Il y a aussi des études sur les traumas de l'Holocauste et d'autres traumas historiques. Et donc le fait qu'il n'y ait pas véritablement d'hérédité transgénérationnelle épigénétique met en question cette hérédité épigénétique, et peut-être l'hérédité là s'est fait plutôt d'un point de vue social et culturel. Donc voilà, il faut faire la part entre les deux.
Oui, complètement.
Il y a un point assez essentiel, une fois qu'on parlait de ça, c'est à partir de quel moment on a commencé à s'intéresser aux pathologies par le prisme de l'épigénétique, Corinne Auger?
Alors, en ce qui concerne en particulier, alors soit le cancer, soit certaines maladies génétiques rares, on a commencé à s'interroger à partir du moment où la génétique ne réussissait plus à expliquer la pathologie, et donc on a été regarder ce qui se passait au niveau de l'épigénome. Et dans certains cancers, en particulier des cancers du cerveau, enfin de la base du cerveau chez l'enfant, on se rend compte que la composante épigénétique, elle est de 95 ou 96%, alors que la part génétique, elle est vraiment tout à fait réduite. Et dans d'autres cancers, ça va être le contraire. On a massivement des mutations génétiques et très peu d'épimutations. Ça dépend vraiment, en fait, tumeur après tumeur. Quand on les décortique, on se rend compte que ces deux curseurs sont variables. Mais pour revenir à votre question, on a été chercher dans l'épigénome à partir du moment où le génome répondait plus aux questions.
Et il y a tout un enjeu maintenant de développement aussi d'épimédicaments. Il y a une question tout de même que je me pose. Une fois qu'on a commencé à regarder les pathologies et le lien avec l'épigénétique, est-ce que on n'est pas arrivé un peu à la question de la poule ou de l'œuf? Est-ce que la pathologie est due à l'épigénétique? Est-ce que l'épigénétique provoque la pathologie? Est-ce que justement là, on n'arrive pas à toucher du doigt une forme, une nouvelle de complexité, Francesca Merlin?
Est-ce que vous faites référence au fait que, du moins au début, maintenant on a avancé quand même dans les recherches, on se posait la question de savoir si toutes ces marques étaient la cause ou la conséquence en fait d'une pathologie. Et maintenant les recherches avancent. Je pense qu'on a des éléments, notamment dans la recherche sur le cancer. Oui. Comme quoi les marques, les modifications épigénétiques sont plutôt causales.
En fait, la difficulté dans l'espèce humaine, c'est que on a des patients, on a des individus que l'on étudie qui n'ont pas le même fond génétique. Donc comme le fond génétique n'est pas le même, le génome va, enfin le génome c'est toujours 20 ou 25 000 gènes, mais la version qu'on a chacun de ces gènes-là peut être différente, et du coup on compare des quand on compare des cohortes de patients ou des cohortes de, vous parliez tout à l'heure des traumas, ou quand on compare voilà des cohortes de gens qui vivent à tel endroit et d'autres gens qui vivent à tel endroit pour savoir si telle ou telle cause passe par l'épigénétique ou pas, on compare des choses qui sont différentes au niveau génétique et au niveau épigénétique. Et là, c'est difficile de faire la part des choses, finalement, entre ces deux composantes-là. Les modèles idéaux, c'est les modèles des jumeaux. Et les modèles des jumeaux nous ont permis, effectivement, d'avancer. Sur le lien de causalité entre marque épigénétique et pathologie, ça dépend des pathologies.
Vous avez des exemples avec des groupes de pathologies?
Alors, les exemples, c'est pas pour de mémoire avoir lu une méta-analyse, parce que la difficulté qu'on a aussi, c'est que souvent les cohortes sont constituées de trop peu de patients. Si on a
les
50, cohortes,
donc les ensembles de patients.
Voilà, les ensembles de patients. Si on regarde 50, 100, 150 patients, ça fait pas assez pour tirer des analyses statistiques fiables. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les méta-analyses. Donc, on prend toutes les analyses qui ont été faites, on les met ensemble et on regarde qu'est-ce qui sort finalement de
super étude.
Voilà, une super étude. Et une des toutes dernières qui a été publiée en 1921 ou 1922 concernant les troubles de l'alimentation, les maladies, ce qu'on appelle les maladies de civilisation, donc le diabète, ces maladies-là. Cette méta-analyse, elle montrait que les modifications épigénétiques étaient plus une conséquence de la maladie qu'une cause. En réalité, le mode de vie, et en particulier la mauvaise alimentation, crée des troubles métaboliques. Ces troubles métaboliques-là, ils vont créer des modifications d'épigénome qui, à long terme, vont cimenter la maladie. Mais c'est pas l'effet premier, les modifications de l'épigénome. Mmh. Donc là, on a quelque chose où c'est pas un lien de causalité direct. Dans d'autres maladies comme Alzheimer, là on a des liens de causalité directe. On sait que c'est la modification de l'épigénome qui contribue à la survenue de la maladie d'Alzheimer.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Vous vouliez réagir.
Je vous ai oui, j'aime bien le terme « contribue » que Corinne a utilisé. Effectivement, comme dans le cas des maladies qu'on appelle génétiques, il est rare que une seule mutation génétique soit à l'origine d'une maladie, c'est très rare. De même, je pense qu'il faut, je pense que c'est le cas, il n'y a pas une modification épigénétique qui va être à l'origine d'une certaine pathologie. Et donc, ça met en évidence comment il faut essayer d'être, de tenter de ne pas retomber dans le déterminisme, le réductionnisme qui a, au courant 20e siècle, caractérisé une partie des recherches en biologie.
Donc, je voulais vous interroger juste justement, l'actu sur l'ère du tout génétique, il faut peut-être reposer les bases finalement de ce qu'est cette ère du tout génétique. On a voulu finalement expliquer tout par les gènes. Est-ce que là, il y a eu aussi, selon vous, une forme d'ère du tout épigénétique, Francesca Merlin?
Donc au cours du XXe siècle, on a essayé d'expliquer tout par les gènes, on parlait de programmes génétiques, l'idée étant que l'information, elle est là, codée, l'information pour le développement des organismes, elle est là, codée dans les gènes, il faut juste déplier ce programme. Même si je suis toujours en quelque sorte précautionneuse, parce que si on les chercheurs en biologie savaient parfaitement que, disons, ils pensaient pas que l'environnement n'avait aucun rôle là-dedans et que les gènes, il fallait que voilà tout seul
était inerte. La dichotomie n'a pas eu voilà un changement.
Voilà, c'est juste que voilà au bout d'un moment il faut réduire, se focaliser sur des éléments qu'on sait étudier, qu'on sait à un moment manipuler comme les gènes, et donc voilà ça donne ce genre de paradigme. L'épigénétique est un pas en avant vers notre compréhension, voilà, du développement des organismes. Je dirais pas que c'est un changement de paradigme, c'est juste un pas de plus, en fait, qui nous permet, comme j'ai dit au début, d'aller vers une conception plus dynamique du génome. Et d'ailleurs, ça nous permet aussi, je me permets d'ajouter, le programme génétique, c'était une forme moderne du préformationnisme. Parce que mm-hmm. cette idée que tout est déjà là. Il faut déplier, il faut lire l'instruction, mais tout est déjà là. Et donc, l'épigénétique vient un peu remettre en cause à nouveau ce préformationnisme moderne. Cependant, beaucoup d'études en épigénétique, du moins au début des années 2000, et c'est la façon dont la recherche se fait. L'approche réductionniste a porté ses fruits, et il y a des raisons pour lesquelles on procède comme ça. Consistait à trouver voilà des associations entre des marques épigénétiques, des patterns de méthylation notamment, et des variations au niveau des caractéristiques visibles des organismes. On avait l'impression que génétique stable, on allait attribuer ces variations phénotypiques aux marques épigénétiques. On allait retomber en quelque sorte dans ce déterminisme en fait, dans cette causal entre un strat de plus, l'épigénétique, et les caractéristiques des organismes. On a fait des progrès depuis, et voilà, l'étude de toute la dynamique aussi de la chromatine et de comment elle est structurée de manière tridimensionnelle dans le noyau, etc., voilà, a permis d'avancer là-dessus.
On est dans la dernière partie d'émission, justement, sur les chamboulements, et finalement, comment l'épigénétique a-t-elle changé le monde, entre guillemets, à gros traits. J'aimerais vous interroger, Corinne Auger, justement, sur peut-être les théories de l'évolution, parce que votre ouvrage s'appelle « Le cou de la girafe » et parle d'épigénétique, donc il y a forcément un lien par rapport à cette question, et notamment la question lamarckienne, en fait. Quel est l'apport, finalement, si on relie, en fait, cette histoire évolutionniste avec nos apports d'épigénétique actuels?
Alors, là aussi, il faut être très prudent. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. En deux mots, resituer la théorie de Lamarck et la théorie de Darwin, la théorie de Lamarck qui a précédé celle de Darwin, qui reste quand même une théorie assez révolutionnaire pour son temps, puisqu'elle prône l'évolution des espèces. Mais cette évolution des espèces, elle se fait sous l'effet de contraintes environnementales qui vont faire que les espèces changent, et le cou de la girafe s'est allongé parce que les girafes n'arrivaient plus à brouter au sol, donc elles ont tiré sur leur cou pour brouter les feuilles des arbres. Et ce caractère acquis du long cou, elles l'ont transmise à leur descendance. Ce que dit Darwin, lui, c'est qu'il existe des girafes avec un long cou et des girafes avec un petit cou. Ça, c'est quelque chose d'aléatoire, c'est préexistant dans la population, et que l'environnement ne fait qu'exercer une pression de sélection sur la population de girafes, en tuant celles qui ne sont pas capables de survivre lorsqu'il n'y a plus rien à manger au sol, et en ne conservant que celles qui ont un long cou. Et donc ce long cou qu'elles avaient déjà au départ, elles le transmettent à leur descendance. Donc c'est deux visions très différentes de la façon dont les espèces évoluent, et on raccourcit souvent, un petit peu à tort à mon sens, la théorie de Lamarck en disant transmission des caractères acquis. Dès cette époque-là, les gens savaient bien que ça se passait pas comme ça. Il y a eu des expériences de mutilation de fait pour montrer que c'est pas parce qu'on coupe la queue ou une patte à un animal qui va le transmettre à sa descendance. Donc voilà, on savait déjà que cette théorie-là, on pouvait pas la réduire à ça. Que nous apporte l'épigénétique là-dedans? En fait, dans la théorie de Darwin, il y a des différences entre individus d'une population, et ces différences, elles sont génétiques. Et la pression de sélection s'exerce sur ces différences génétiques. Imaginons maintenant une population dans laquelle il n'y ait pas trop de différences génétiques et qui sont placées dans un environnement où il faut qu'elles s'adaptent, sinon elles meurent. La survenue de mutations génétiques, c'est quelque chose qui peut prendre longtemps. Ça, on l'a dit tout à l'heure, ça survient au hasard. Et pour que ça tombe au bon endroit pour créer un processus d'adaptation qui permette à l'espèce de survivre, on peut attendre quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Alors que les modifications épigénétiques, elles peuvent intervenir de façon beaucoup plus rapide dans le temps. Et donc l'idée, c'est de se dire que les espèces peuvent être en situation de s'adapter via leur épigénome lorsque l'environnement change. Et ça a été prouvé chez les plantes. Plus rapidement. Et ça a été prouvé chez les plantes. On a des exemples d'orchidées qui sont toutes issues d'une même espèce mère, et en fonction de l'endroit où elles poussent dans le monde, elles ont des épigénomes différents qui leur permettent de s'adapter à leur environnement. Et ça peut éventuellement permettre d'attendre 1000 ans, 10 000 ans, que la mutation génétique qui va stabiliser le phénotype survienne. Donc ça existe chez les plantes. On peut élargir cette hypothèse-là aux espèces animales, mais pour l'instant, on n'en a aucune preuve. Mais en fait, ces épimutations permettent une espèce de transition en attendant la survenue de la mutation, si la mutation n'existe pas au départ.
J'en arrive finalement à ma dernière question qui me paraît essentielle. On a raconté l'histoire de l'épigénétique. On a vu à quel point il y avait des liens en fait avec la génétique. Est-ce que un jour, Francesca Merlin, l'épigénétique disparaîtra parce qu'elle sera englobée finalement par la génétique?
C'est l'hypothèse de Michel Morange, historien de la biologie, qui était aussi mon directeur de thèse. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génétique commence à s'ouvrir, en fait, en étudiant tous les intermédiaires, en gros, comme dirait Waddington, entre le génotype et le phénotype, en faisant des analyses transcriptomiques, du transcriptome, de l'ensemble des facteurs de transcription qui permettent donc cette première étape de l'expression de gènes, en étudiant plein d'autres facteurs protéiques, enzymatiques qui interviennent. Donc, ce côté dynamique, comme je disais tout à l'heure, est pris en compte par les généticiens. Et donc, Michel Morange affirme, et je suis d'accord, que peut-être un jour, on parlera plus d'épigénétique, et ce sera la victoire de l'épigénétique parce qu'on aura intégré cette dynamique au sein de la génétique même.
Une réaction aussi à cette question, Corinne Auger. Est-ce que finalement l'épigénétique disparaîtra au profit de tout le monde, de l'épigénétique, mais dans la génétique?
Alors je ne sais pas si elle disparaîtra sensu stricto, mais en réalité, que ce soit la génétique, l'épigénétique, les protéines, tout ça, ce sont des contributeurs qui se mettent en place dans des processus dynamiques et on simplifie pour pouvoir expliquer les processus. Donc forcément, en simplifiant, on raconte des fois des bêtises parce que quand on simplifie trop, on finit par raconter des choses qui sont fausses. Les outils qu'on a aujourd'hui nous permettent d'empiler des connaissances, d'amalgamer des connaissances. Et moi, je préfère voir les choses comme étant chacune avec sa contribution. Chaque domaine, chaque branche de la biologie apporte sa contribution. Et aujourd'hui, on peut plus regarder le développement embryonnaire uniquement sous l'angle génétique ou épigénétique. On sait aussi qu'il y a des forces mécaniques qui s'exercent pour déterminer ce que devient une cellule. On sait aussi qu'il y a tous ces fameux ARN dont on n'a pas parlé, qui jouent un rôle prépondérant. Donc voilà, il y a des contributeurs. Dans certains cas, l'épigénétique est un contributeur fort. Dans d'autres cas, un peu moins. Et l'important, c'est d'être capable d'évaluer ces curseurs et cette dynamique.
Merci à vous deux, Corinne Auger, Francesca Merlin, d'être venus nous raconter l'histoire de l'épigénétique. Merci à Loïc Dutoux à la préparation de cette émission, Sam Bakiast à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Dalia à la technique. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se quitte en musique avec Nos Gènes, l'or du commun.
Je regarde vers le haut pour que le ciel m'aide. Il peut plus rien m'arriver si elle m'aime. Encore sur CNN, j'ai vu la mort, j'ai pas changé de chaîne. Non. Ma vie elle me plaît, j'aimerais la remplir d'une chier de scène. D'abord, avant de dead, certaines de mes blessures en CNN. Encore. Hey, c'est comme ça, je suis complexe, je suis tout et le contraire. Yeah, regarde les thèmes qu'on traite, c'est nos limites qu'on teste. 2013, un concept, le début d'une conquête. C'est quand qu'on nous couronne, on gagnera le contest. Qu'on somme les mots qu'on sème, dévoyer le console. J'ai quitté la console depuis, je joue des concerts. Grâce à mes deux consorts, mon avenir est concret. On plane comme des condors et c'est à vous des concerts. J'ai troqué mon confort, écoute les choses concrètes.
Quand j'ai vu le jour, j'ai lu dans les yeux du gynéco qu'il fallait tirer mon épingle du jeu avant que la vie ne m'enfile sa laisse. Les plus malins ont déjà prouvé que même glandé mérite salaire. Jeune garçon restera bon tant que personne ne nique sa mère. Oh. J'ai fait un rêve et j'ai vu ce qui est écrit dans nos gènes. La foule était dans ce mais y'avait que nous dans la benne. Oh. Les miens ramenaient l'oseille avec deux doigts dans le zen. Rien n'avait changé sauf qu'avec nous dans la Benz.
Ils vendraient leur âme pour 10 tickets. Tous ces jeunes qui ont vu 50 cents. Depuis que le rap remplit le frigidaire, y a moins d'apprentis criminels. On est venu en retard, on a raté le train. Mais quand même on va gâter le coin. On est bien habillé, on est toutes les couleurs. On va gagner assez de points. Oui oui j'imagine la tête qu'il a. Multisyllabique à 7 syllabes. Tu comptes, tu t'aperçois qu'il y en avait 9. Et même moi je m'aperçois qu'il y en avait 9. Poto j'attrape des tics nerveux. Quand je suis entouré des petits merdes. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire feu. Mais LVA c'est l'envie de faire mieux. C'est le deuxième couplet, ouais je te finis bien.
tête coupée comme Goliath le Philistin. On préfère les bonnes femmes en Adidas. On n'aime pas les grognasses en Philippin. On est talentueux et époustouflant. On a des phases à tout bout de champ. Enterrez-moi à côté de mon daron avec un putain de doudou blanc.
Hey, j'ai fait un rêve et j'ai vu ce qui est écrit dans nos chaînes. La foule était danse, mais y'avait que nous dans la baisse. Les miens ramenaient l'oseille avec deux doigts dans la.